Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Six jours après son frère Grishka, la mort d'Igor Bogdanov à l'âge de 72 ans, les célèbres jumeaux, tous deux emportés par le Covid à quelques jours d'intervalle. La nuit promet d'être longue pour les députés. Examen du projet de loi sur le pass vaccinal, 650 amendements et beaucoup d'électricité sur les bancs de l'Assemblée. Le télétravail obligatoire, 3 jours par semaine minimum. Le quartier de la Défense était quasiment désert en ce lundi de rentrée. Des aides plus larges pour les entreprises touchées par les restrictions sanitaires. On fera le point dans ce journal avec Carole Ferry. L'invité éco, on parlera santé et sécurité au travail avec Jean-Claude Delgen, expert de ces questions. La météo, demain, dernier jour de douceur avant le retour à des températures plus conformes à la saison. Et puis, on gardera bien sûr nos habitudes pour cette nouvelle année qui commence. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Juste avant 22h30, on découvrira ensemble les unes de la presse de demain matin. Moins d'une semaine donc après son frère jumeau Grishka, on a appris en fin de journée la mort d'Igor Bogdanov. Il avait été hospitalisé en même temps que son frère, emporté il y a 6 jours par le Covid. Nina Drov, vous avez plus de détails sur les circonstances de sa mort.
Oui, d'après son agent, Igor s'est éteint dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille. Il était âgé de 72 ans. Comme son frère, il était hospitalisé en réanimation à l'hôpital Georges Pompidou à Paris depuis le 15 décembre. Ils avaient tous les deux contracté le Covid-19, contre lequel aucun des deux n'aurait été vacciné, selon les informations du journal Le Monde. Deux disparitions successives qui touchent profondément leur avocat, maître Édouard Lamaze.
On ne peut pas dire qu'on s'y attendait, mais en quelque sorte, je ne voulais pas qu'Igor apprenne la mort de son frère. Igor et Grishka, comment les séparer? Ce n'est pas possible. Je peux comprendre la tristesse de tous ceux qui ont suivi l'œuvre des Bogdanov. Ils étaient tous les deux, je veux dire, des amours, très ouverts aux autres, une extrême douceur. Voilà, donc que des adjectifs valorisants.
Les jumeaux s'étaient fait connaître dans les années 80 avec leur émission de science-fiction Temps X, diffusée sur TF1, où les deux se montraient dans un décor spatial en combinaison futuriste argentée. D'après leur avocat, il se pourrait que les deux frères soient enterrés ensemble.
Merci Nina Droff. Une illustration de la grande complicité qui unissait les frères Bogdanov, c'était en 2008 sur Europe 1. Igor racontait avec beaucoup de malice comment son frère Grishka avait endossé dans les années 80 les rôles des deux frères pour des enregistrements de leur émission Temps X.
Moi j'étais à ce moment-là en train de développer une série aux États-Unis, donc j'étais à Los Angeles et Grishka était à Paris. Et pendant plusieurs mois, il a présenté...
Un mois et demi.
Donc il a présenté Temps X, la fameuse émission, en jouant les deux rôles. C'est-à-dire que, pour le coup, l'émission était enregistrée. Grishka faisait sa prise en disant ben, « Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le mystère des extraterrestres.
» À tel point que le directeur donc, des programmes jeunesse de TF1 m'a convoqué à un moment, m'a dit « Bon, vous étiez très bien, Grishka, mais vous auriez pu prendre exemple sur Igor, qui était beaucoup mieux que vous.
» Mais voilà pour cette belle anecdote racontée par Igor Bogdanov, mort cet après-midi à 72 ans, 6 jours donc après son frère Grishka Bogdanov. Pas un jour à perdre pour barrer la route à Omicron. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a démarré dès ce lundi de rentrée à l'Assemblée, avec des débats d'ailleurs agités. Olivier Véran a voulu justifier les choix du gouvernement en début de séance. Du sang-froid et une réponse graduée à Omicron, a expliqué le ministre de la Santé, ce qui n'est pas la façon de penser des oppositions. Ces débats sur le pass vaccinal ont donné lieu d'ailleurs à une passe d'armes entre Olivier Véran et Jean-Luc Mélenchon, candidat Les Insoumis à la présidentielle.
Nous étions donc contre ce pass sanitaire. Nous voici contre le pass vaccinal parce qu'il est 100% inefficace. 100% inefficace. 91% de la population éligible est vaccinée. Mais à quoi ça sert? Si tout aussitôt il y a 500 000 contaminations par jour, autrement dit la preuve est à portée que ce vaccin est une raquette trouée, nous ne lui en voulons pas.
Par le passé, vous vous êtes tellement trompé. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, monsieur le député. Et vous prétendez, pour terminer, être un jour président de la République. Eh bien, vous êtes en train de prendre exemple sur deux bien mauvais présidents de la République. Ils s'appellent monsieur Bolsonaro au Brésil et c'était monsieur Trump aux États-Unis.
Voilà pour cet échange tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Véran. Les députés vont poursuivre l'examen de ce texte sur le pass vaccinal une bonne partie de la nuit sans doute. 650 amendements ont été déposés. Le projet de loi sera ensuite examiné au Sénat en vue d'une adoption le 15 janvier. Chaque jour compte, tant le variant Omicron a brutalement fait exploser les chiffres de contamination quotidien. Les prochains fiables ne seront connus que demain après-midi puisque nous sortons du week-end du Nouvel An. Sans attendre, Jean Castex réunissait cet après-midi 10 ministres à Matignon pour garder un œil sur la continuité des services publics essentiels, qu'on parle des hôpitaux, des forces de l'ordre ou des transports. Comme partout ailleurs, les arrêts maladie s'y multiplient. Jacques Sorin, aujourd'hui, il s'agissait de faire un point d'étape.
Oui, car l'exécutif se prépare au pire sur l'activité économique du pays en ce mois de janvier. L'explosion du nombre des contaminations risque d'engendrer un taux d'absentéisme inédit qui pourrait mettre en péril la continuité des services publics. C'était donc tout l'objet de cette réunion. Jean Castex a redit sa volonté d'anticiper les éventuelles difficultés. Devant cette dizaine de ministres, Bruno Le Maire pour l'économie, Olivier Véran pour la santé ou encore Jean-Michel Blanquer pour l'éducation, le Premier ministre a rappelé en somme qu'il était hors de question que les services publics se retrouvent affectés par Omicron. Pour cela, pas de nouvelles mesures. Pour leur Matignon assume les dernières règles d'isolement et ne compte pas en changer tout de suite. Selon le Premier ministre, elles permettent de concilier, je cite, « protection contre les risques de diffusion du virus et préservation de la vie socio-économique ». Mais la prudence reste de mise. Jean Castex a demandé à chacun de ses ministres un état des lieux au jour le jour de l'absentéisme, par département et par service. Une prochaine réunion aura lieu dans le même format et sur le même objet, dans 3 jours, jeudi, à Matignon.
Jacques Sorey du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen décale de 3 semaines son meeting du 15 janvier en raison de la situation sanitaire. Ce meeting de Reims devait marquer le lancement de sa campagne. Il est finalement programmé le 5 février prochain. Ce jour de rentrée des classes coïncide aussi avec de nouvelles règles à l'école. Un cas positif se traduira par 3 tests à réaliser en 4 jours pour les camarades de classe. Pas facile de s'y retrouver pour les parents d'élèves. À Mandelieu d'Anapoule, dans les Alpes-Maritimes, le reportage de Frédéric Michel.
Bien informé par les médias, mais par l'école, non.
Et ce manque d'informations irrite au plus haut point les parents que j'ai rencontrés autour des écoles de leurs enfants ici à Mandelieu.
On aurait pu nous prévenir, ouais. Au moins envoyer un mail aux parents qu'on puisse anticiper tout ça et le savoir.
Des parents d'élèves qui jugent compliqué ce nouveau protocole avec 3 tests en 4 jours sans fermeture automatique de la classe.
Cas contact, cas surcontact, un casse-tête chinois.
Et cette maman d'une fillette de CE1 a très vite plongé dans le bain.
On nous a envoyé un mail à 13h pour venir récupérer les enfants parce que la maîtresse était testée positive. Donc il fallait les faire tester donc aujourd'hui pour qu'ils puissent revenir demain à l'école, puis dans 2 jours et puis dans 4 jours. Là, toute l'année comme ça, c'est lourd pour nous. Hein.
Après un premier test PCR ou antigénique, 2 autotests seront délivrés gratuitement en pharmacie. Les parents devront déclarer sur l'honneur avoir testé leurs enfants.
Oui, je jouerai le jeu, oui, bien sûr. Mais c'est vite fait. Hein. Des parents peuvent vous dire « mon enfant est négatif », mais au final, il peut être positif et contaminer les copains. Je trouve pas ça pratique pour l'enfant. Ils subissent les cotons-tiges dans le nez. Je trouve ça aberrant.
Les élèves pourront revenir à l'école dès le premier test négatif. Même protocole pour les enseignants vaccinés et cas contact. Mandelieu, Frédéric Michel, Europe 1.
Vous êtes nombreux à vous y être pliés ce lundi. Le télétravail revient en force et cette fois, il est obligatoire pour tous les emplois qu'il permette. Sur le parvis de la Défense, dans le quartier d'affaires parisien, Thibault Hue a pu constater combien la règle était suivie.
Une place presque déserte, silencieuse, les travailleurs ne sont pas nombreux à sortir des bureaux. Jacques était en présentiel et il s'est senti un peu seul.
Les bureaux sont vides et c'est très calme, très calme. On ne croise pas de grand monde dans les couloirs sont vides, hein. On ne rencontre personne. Hein.
Des bureaux vides et une ambiance pesante, c'est ce que raconte Adrien qui avait seulement un collègue pour lui tenir compagnie au lieu de 10 d'habitude.
On est obligé de communiquer beaucoup plus par mail, on a plus l'impression de parler avec des collaborateurs ou des gens de structure externe qu'à ses propres collègues en interne. Mais on trouve des moyens de garder le contact informel en faisant des cafés visio, ce genre de choses pour que nos échanges ne soient pas uniquement centrés sur le travail, ce qui serait le cas si on n'organisait pas des moments de convivialité dédiés en distanciel aussi.
Et pour ceux qui sont quand même venus travailler ici, bientôt ce sera à leur tour d'être à distance. C'est le cas de Anne par exemple.
Aujourd'hui c'était exceptionnel, m'a venue au bureau, mais dès demain je suis de nouveau à télétravail en 100%. C'est fatigant. Le fait que ça dure, là, ça devient vraiment, vraiment long. Mais on fait avec.
De la fatigue, de la lassitude, et beaucoup le disent, c'est bien parti pour durer.
Thibault Hue dans le quartier de la Défense, à l'ouest de Paris. Boire et manger dans les transports est bien interdit, mais avec cette précision de Jean-Baptiste Djebbari, en cas de besoin, oui, il restera possible de manger et de boire, mais rapidement, le ministre délégué aux transports veut surtout éviter le syndrome du voyageur qui mange des chips pendant des heures. Les entreprises touchées par les restrictions sanitaires, et elles sont nombreuses, vont bénéficier d'un élargissement des aides après les annonces ce lundi du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il n'est plus question du quoi qu'il en coûte, mais de nouvelles mesures de soutien ont été décidées, Carole Ferry.
Oui, alors la première aide, c'est le retour de la prise en charge à 100% de l'activité partielle. L'État payera entièrement le chômage du personnel des entreprises touchées par des restrictions administratives. Deuxième étage de la fusée, le dispositif dit de prise en charge des coûts fixes va être élargi aux entreprises du tourisme, hôtels, bars, restaurants, agences de voyage, etc. Alors les professionnels saluent la réactivité du ministre de l'économie qui les a reçus dès le premier jour de la rentrée. Mais ça bloque au niveau du montant des plafonds. Certes, ils ont été revus à la baisse, mais ça n'est pas suffisant selon Didier Chenet, le président du GNI, le groupement des indépendants de l'hôtellerie-restauration.
L'aide à coût fixe fixée à une perte de 50% du chiffre d'affaires, comme vous prenez en référence le mois de décembre 2019, qui avait été un mois perturbé par les événements sociaux, eh bien ce n'est pas suffisant, il faut qu'on descende ce pourcentage et nous le proposons à 30%. Et concernant le chômage partiel, même chose, on vous demande 65% de perte de chiffre d'affaires. Imaginez un restaurateur, un hôtelier qui perd 60%, il n'a pas accès au chômage partiel, il va au dépôt de bilan.
Pour ceux qui ont droit aux aides, en tout cas, le ministre de l'économie s'est engagé à ce que les indemnités soient remboursées beaucoup plus vite, en quelques jours, pour les sommes inférieures à 50 000 euros. Par ailleurs, la piste d'une exonération des cotisations est à l'étude.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
L'année 2021 a été marquée par la forte reprise de l'économie mondiale. Le secteur de l'immobilier n'y a pas échappé. Maud Descamps, c'est l'année de tous les records.
En effet, avec tout d'abord un record du nombre de transactions. Il n'y a jamais eu autant de ventes et d'achats qu'en 2021. Plus d'1 200 000 transactions, encouragées essentiellement par des taux d'intérêt toujours très bas, ce qui a notamment permis aux jeunes ménages de faire leur premier achat immobilier. Et puis, il y a eu l'effet confinement qui a donné envie à certains de quitter les grandes métropoles. Conséquence, les prix grimpent partout en France, un record dont les Français se seraient bien passés. Ils ont déboursé en moyenne 268 000 euros pour une maison, 228 000 euros pour un appartement. Seul Paris fait exception avec une baisse de 2,2% du prix au mètre carré. Et enfin, sachez qu'il n'y a jamais eu autant d'achats faits à titre d'investissement. Environ 30% des transactions en France cette année sont des achats de biens destinés à la location. Et enfin, un autre effet de la crise sanitaire, la part d'achat de résidences secondaires est en hausse de plus de 6% en 2021.
Maud Descamps. C'est une première mondiale et un premier pas contre la pollution sonore et ses effets sur la santé. Un radar sonore sera inauguré demain dans les Yvelines à Saint-Lambert. Sept collectivités vont d'ailleurs en recevoir en test dans les semaines qui viennent. Ce n'est donc pas un radar qui mesure votre vitesse, mais plutôt le niveau sonore de votre véhicule. L'idée est de sanctionner ceux qui sont trop bruyants au-delà d'un certain nombre de décibels, le fonctionnement de ces radars sonores expliqué par Louise Salé.
Cet appareil est très discret. Ce sont des micros perchés sur un poteau au bord de la route. Trois modèles existent à ce jour et l'un d'eux a été conçu par Bruit Parif. Fanny Metlicky en est la directrice.
En fait, on a plusieurs microphones qui mesurent non seulement le niveau sonore, mais aussi qui permettent de détecter les directions de provenance du bruit. On est capable de détecter avec précision la distance entre le point qui émet le bruit et notre capteur, parce qu'il ne serait pas logique qu'un véhicule qui passe plus proche de notre capteur soit verbalisé, alors que s'il passait un peu plus à gauche, si vous voulez, il ne le serait pas.
Pour l'instant, on est encore dans une phase d'expérimentation de ces radars. Ils seront installés dans une petite dizaine de villes en France dans les prochains jours. Et les infractions viendront après l'été, lorsqu'aura été fixé le seuil de décibels maximal à partir duquel les conducteurs seront en tort. Ce seuil vise en fait à repérer les moteurs débridés, trafiqués illégalement, qui font beaucoup de bruit. La sanction, elle, est déjà connue, 135 euros d'amende pour les contrevenants.
Louise Salé. La Coupe de France de foot reprend. Ce sont les 16e de finale. Premier match de cette nouvelle année ce soir à Vannes qui reçoit le PSG avec une équipe très remaniée. 5 joueurs dont Messi positif au Covid. Loïc Folio, vous êtes en direct du stade de la Rabine à Vannes pour Europe 1. C'est le PSG, Loïc, qui mène. Hein.
Oui, très logiquement. C'est le début de la deuxième période. Le PSG qui mène 1-0, vous l'avez dit, face à des Vannetais qui opposent une résistance farouche mais qui ne parviennent pas vraiment à inquiéter Donnarumma, le gardien parisien. Le PSG privé, entre autres, de Messi, touché du Covid, ou encore de Neymar. Eh bien, s'en est remis à son capitaine Presnel Kimpembe pour catapulter de la tête à la 29e minute un corner au fond des filets morbihanais à la réception d'un centre de Mendes. Et puis sans un Clément Pétrel, il faut le souligner, le gardien Vantet très inspiré, eh bien les joueurs de Mauricio Pochettino pourraient mener bien plus largement au tableau d'affichage. Mais le gardien breton maintient pour l'instant l'espoir dans le camp Vantet. C'est la deuxième mi-temps qui commence à l'instant même et Paris qui mène 1-0.
Loïc Folliot, merci Loïc, en direct de ce Van PSG pour Europe 1. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret. Demain, dernier jour de douceur qui nous apportera à nouveau de la pluie.
Oui Alexandre, les températures étaient généralement 5 à 10 degrés au-dessus des normes de saison sur l'ensemble du pays. On a quand même relevé près de 22 degrés à Combeau-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques et elles vont commencer à baisser dans le nord-ouest demain. Il faudra vraiment attendre mercredi pour que cette baisse soit généralisée. Alors demain, les maximales atteindront 11 à 16 degrés, pas plus de 9 à 11 dans l'intérieur de la Normandie et près de la Manche. Et il fera encore 16 à 19 au sud de la Garonne, jusqu'à 20-21 degrés, pourquoi pas, au pied des Pyrénées. Cette baisse s'amorce dans le sillage de la perturbation pluvieuse qui nous concerne. Perturbation assez active avec du vent parfois pour accompagner ces pluies. Elles sont présentes cette nuit et elles vont durer comme ça demain matin sur la moitié nord. En tout cas une bonne partie de la journée, sauf de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Le matin, puisqu'on va repasser à l'arrière. Et donc, c'est un ciel changeant qui va s'installer avec des averses. Cette perturbation bascule un petit peu sur sa partie sud. Voilà pourquoi les pluies gagneront également la Nouvelle-Aquitaine et le Limousin. Elles s'étendront jusqu'à la Bourgogne, à la Lorraine et à l'Alsace. Quelques régions resteront au sec, de l'Occitanie à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant par la vallée du Rhône. Et on n'oublie pas la Corse.
Merci Marlène Duret. Et on vous retrouve à minuit, bien sûr, pour un nouveau point météo. Restez avec nous dans un instant. C'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Et c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Un très bon d'année pour vous, j'en suis sûr. Claire,
très bonne année.
Mais aussi pour Wall Street, oui, puisque les indices américains, Claire, s'offrent de nouveaux records à la clôture.
Oui, les investisseurs qui pensent toujours que le variant Omicron ne pèsera pas tant que ça sur la reprise économique mondiale. Le Dow Jones en profite pour battre un record. Il gagne 0,68%, 36 585 points. Record aussi pour le S&P 500 et toujours pas de record pour le Nasdaq qui grimpe tout de même de 1,2%. Le Nasdaq bien aidé par Apple, le géant de la tech a passé brièvement pendant la séance la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation en bourse. C'est le premier groupe au monde à franchir ce cap et il profite notamment de l'envolée du travail ou du divertissement numérique avec le streaming ou le métavers. Et puis l'autre star du jour, c'est Tesla. Le constructeur a livré un nombre record de voitures au quatrième trimestre. Le groupe d'Elon Musk résiste à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Il s'offre le luxe d'augmenter sa production en Chine et le titre s'envole de plus de 13%.
Les valeurs bancaires sont en forte hausse également ce soir à Wall Street.
Avec un gain de plus de 3% pour Goldman Sachs, JP Morgan avance de 2%. Les grands groupes pétroliers profitent de la hausse des cours du brut. Chevron avance de 1,6%, ExxonMobil grimpe même de 3,8%. Et puis les compagnies aériennes aussi terminent dans le vert, malgré les milliers de vols annulés une nouvelle fois aux États-Unis ces dernières heures à cause du Covid. Plus 3,7% pour Delta Airlines, plus 4,4% pour American Airlines. Et puis un mot des devises, l'euro 7 ce soir 0,7% à 1,1291.
Cette année 2022 commence bien pour le CAC 40, Claire, le CAC qui atteint un nouveau record historique.
Oui, ça démarre très bien avec un CAC qui grimpe donc directement au-dessus des 7200 points. Il gagne 0,9%, 7217 points précisément. C'est donc un nouveau plus haut historique. Forte hausse ce soir pour l'aérien avec Air France KLM et ADP. Citi a relevé sa recommandation sur les deux titres de vendre à neutre. Ça monte aussi pour Airbus. L'avionneur aurait dépassé son objectif de 600 livraisons d'avions en 2021 et l'action grimpe de plus de 3%. La bourse de Londres est restée fermée aujourd'hui, mais les autres marchés européens démarrent bien l'année. Plus 0,7 pour Amsterdam, plus 0,5 pour Madrid, Milan plus 1,4 et à Paris, le CAC 40 s'adjuge 0,9%. 7217 points.
Merci Carl Maître. À À 22h20, sur Europe 1, l'invité éco est Jean-Claude Delgène, président et fondateur de Technologia, expert en santé et sécurité au travail. Il était à midi dans La France Bouge sur Europe 1 et il répond à Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag.
Bonjour Jean-Claude Delgène.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Technologia, cabinet Technologia, expert en santé et sécurité au travail. Pour une durée de 3 semaines, Jean-Claude Delgène, salariés du privé et fonctionnaires qui le peuvent sont amenés à pratiquer un télétravail renforcé en raison de la vague de Covid-19 liée notamment au variant Omicron. 3 jours par semaine au moins. Jean-Claude Delgène, sommes-nous prêts et avons-nous tiré les leçons des 22 mois qui nous précèdent ?
Écoutez, tout d'abord, je vous présente tous mes voeux de bonheur, y compris aux auditeurs d'Europe 1. Merci de m'inviter pour cet échange. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on vit, comme on le voit, une période singulière. Mais c'est vrai que le début d'année est un bon moment pour faire le bilan des 2 dernières années qui se sont écoulées. Ce qu'on peut dire, pour reprendre un peu, y compris l'esprit de votre émission, c'est qu'il y a quand même des choses très positives qui se sont exprimées, hein, puisque on a quand même vécu la plus grande épreuve depuis 80 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, et qu'on a connu quand même une résilience, en particulier dans le monde professionnel, assez extraordinaire. Il faut le souligner. Deuxième aspect, on a gagné en maturité numérique au moins 10 ans du fait de la généralisation du télétravail. Troisième aspect, la dysrythmie sociale que nous avons connue, c'est-à-dire la désynchronisation des rythmes singuliers, des rythmes personnels avec les rythmes sociaux qui nous sont imposés, a permis à un grand nombre d'entre nous de réaligner leurs valeurs, de réaligner leur volonté d'agir au niveau professionnel. Il y a un grand nombre de gens qui ont décidé de faire autre chose, de changer de métier, de changer d'endroit pour vivre. Donc tout ça, c'est très positif. Vous voyez ? Alors effectivement...
Non mais c'est important les points positifs que vous mettez en avant, parce qu'on en a tous besoin en ce moment.
Tout à fait.
Je retiens peut-être déjà le premier, le mot de résilience. On pourrait le compléter d'adaptabilité, puisque là encore, on est nombreux à voir, nous les premiers, ici Europe 1 avec Elisabeth, on a eu un mail pendant nos vacances en nous disant à la rentrée, c'est 3 à 4 jours de télétravail pour ceux bien évidemment qui le peuvent. Ça c'est très nouveau aussi, cette adaptabilité.
Absolument, il y a une très grande acceptabilité sociale. Aujourd'hui. Alors c'est vrai que le télétravail offre bon nombre d'avantages.
Mais quelque part on n'a pas le choix. Parce que celui qui ne s'adapte pas aujourd'hui, ben, il ne travaille plus.
Absolument, il y a une nécessité de s'adapter parce que pour faire face à cette menace quand même bien présente, hein, on a eu quand même, nous à Technologia par exemple, on a eu un décès. Donc vous voyez, quand vous avez la mort qui touche les équipes, je peux vous assurer que tout le monde comprend la nécessité, outre les gens qui ont été victimes, qui ont été malades simplement, mais... Il faut savoir aussi que le coronavirus, le Covid, a des conséquences en termes de santé. Donc il faut effectivement, neurologique en particulier, 17% des personnes qui sont malades du coronavirus développent des problèmes neurologiques après. Donc il faut faire attention, vous voyez. Donc, et c'est normal de s'adapter pour ne pas être malade et ne pas menacer les autres.
Mais ce non-choix finalement de devoir s'adapter a forcément des répercussions sur le travail.
Oui.
Puisqu'on fait abstraction de plein de choses en devant s'adapter obligatoirement.
Il y a à la fois, je dirais, des aspects très positifs, à la fois des aspects qui le sont moins. Donc, le télétravail permet une plus grande autonomie pour les personnes, une meilleure adéquation de leur vie privée et de leur vie professionnelle. Mais c'est vrai que si on n'y prend pas garde, on peut couper l'individu du collectif de travail et de l'intelligence collective. Et ça, donc il faut organiser les choses de telle manière que sur le lieu de travail, quand la personne vient les 2 jours qu'il reste là jusqu'à la fin janvier, eh bien que la personne qui vient au télétravail ne se retrouve pas comme si elle était chez elle à télétravailler.
Il faut qu'elle fasse totalement autre chose alors.
Voilà, il faut réinstaurer des moments d'échange, favoriser des échanges même y compris informels entre l'équipe. Donc il faut penser télétravail, mais il faut penser télétravail en même temps que le travail en présentiel pour organiser les flux d'échanges entre les uns et entre les autres. Mais si vous venez au travail pour simplement faire du télétravail, ça n'a pas de sens.
Mais par rapport à ce que disait Elisabeth, ce coup-ci c'est à nouveau subi, ce n'est pas volontaire, donc tous les points positifs que vous mettez en avant sont peut-être un poil annihilés. Est-ce que ce n'est pas tout simplement... Pour beaucoup de salariés, le télétravail de trop, y compris pour les managers et pour les managers d'une certaine manière.
Il faut bien voir les choses. Nous, on le voit bien à Technologia. En fait, premièrement, il y a une grande partie des travailleurs, comme vous dites, qui ne sont pas éligibles au télétravail. Hein, donc, le télétravail...
C'est ça, on estime que 30 à 40% des jobs sont télétravaillables,
absolument.
C'est ça l'idée. Hein.
Globalement, avant mars 2020, en télétravail, vous aviez très peu de gens, entre 5 et 7% des gens qui avaient fait l'expérience du télétravail. En plein confinement, on est monté à 35-38%. On n'a pas des chiffres vraiment très fiables. Voilà. Aujourd'hui, on peut considérer qu'à peu près 38 à 40% des gens peuvent télétravailler. Les autres sont donc en opérationnel.
Privé et voilà. Également voilà. Du côté
d'ailleurs,
public. Hein.
D'ailleurs, j'indique là-dessus qu'il faut effectivement, dans les entreprises où vous êtes, les gens qui sont éligibles au télétravail et d'autres qui ne le sont pas, il faut gérer les tensions entre les deux publics. Parce que malgré tout, le télétravail reste une aspiration pour les salariés.
Et comment vous faites avec ceux qui n'en ont pas envie ?
Bah, ceux qui n'en ont pas envie, d'ailleurs dans le décret qui est sorti pour pouvoir organiser cette... Il y avait au départ la volonté de laisser la possibilité à ceux qui ne voulaient pas être en télétravail de venir travailler. Et donc on était plus dans une moyenne collective que dans 3 jours pour chacun. Bon, c'était compliqué à mettre en œuvre, le gouvernement a reculé, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui veulent venir travailler doivent pouvoir le faire. Quitte à faire en sorte
même
d'inciter...
Là, le gouvernement a quand même été assez clair. Ceux qui peuvent télétravailler doivent télétravailler. C'est ce qui a été promulgué.
Oui,
alors, en plus, ce qui est compliqué pour les salariés... Là, c'est une obligation, même si... J'espère ne pas dire une ânerie, Jean-Claude Delgène. Il y a un petit vice de procédure parce que le gouvernement n'a officiellement pas le droit d'obliger les entreprises au télétravail, mais au titre de la santé au travail, ça peut entrer dedans. C'est
tout
ça l'idée.
C'est ça l'idée. Il y a une mesure qui a été prise avec une amende, une sanction. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, qui peut être actionnée par l'inspection du travail.
C'est 1 000 euros par salarié concerné dans la limite, je crois, de 50 000 euros.
50 000 euros, ce qui est quand même beaucoup. Mais bon, surtout pour les petites boîtes. En sachant que, encore une fois, je crois qu'il faut bien comprendre que globalement, les salariés sont plutôt favorables. C'était une revendication au départ, le télétravail des salariés. Le vrai problème, c'est le management et les dirigeants qui voient, y compris en clair, dans le télétravail, une perte quand même d'efficacité. Et c'est vrai qu'il y a une perte de création de richesse. Il faut être clair, ça va 5-6 mois. Si on restait trop longtemps, tout le temps en télétravail, on aurait une perte de richesse parce que le collectif, c'est ça qui est la richesse aujourd'hui.
Merci beaucoup Elisabeth, merci Emmanuel. On vous retrouve demain de 13h à 14h pour La France bouge sur Europe 1. Et avec vous, eh bien, on découvrira si les Français ont, oui ou non, roulé beaucoup pendant ces vacances de Noël, puisque votre invité sera le patron d'AP2R, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un crayon de papier tout mordillé à la une de Libération demain mardi 4 janvier à cause de cette nouvelle rentrée sous Covid. Tout le monde est sur les nerfs, titre Libé. Les cours ont repris en pleine vague Omicron avec un protocole sanitaire dévoilé la veille, ce qui provoque l'incompréhension. Derrière la rentrée des classes, la présidentielle, perturbée elle aussi par Omicron, c'est la une du Figaro, alors que les candidats sont contraints de s'adapter. La gestion de la crise sanitaire s'impose à nouveau dans l'agenda, comme l'illustrent les débats sur le pass vaccinal à l'Assemblée. La rentrée, la présidentielle perturbée, La Croix pense aussi au JO de Pékin sous bulle sanitaire. À un mois du début des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver, et bien les athlètes se préparent à concourir sous une très stricte surveillance. Je vous parlais il y a quelques minutes dans le journal de 22h des chiffres records des transactions immobilières en 2021. Eh bien, les Échos vous proposent demain cette enquête sur ces villes qui veulent attirer les Parisiens. Les envies de départ des Franciliens plus généralement suscitent l'intérêt de nombreux territoires. Avec la crise sanitaire, les opérations séduction se multiplient pour les attirer. Il y a même des séances de job dating organisées à Paris. Les premiers résultats sont jugés encourageants. De grandes villes d'ailleurs comme Dijon sont elles aussi dans la course pour attirer ces Parisiens, ces Franciliens en mal d'espace, de verdure. 22h29, vous êtes sur Europe 1. On va refaire un petit tour du côté de Vannes pour ce match Vannes-PSG, 16e de finale de la Coupe de France de foot avec vous, Loïc Folio. Un petit point sur le score, Loïc.
Eh bien, il a évolué depuis notre intervention tout à l'heure, puisque le Paris Saint-Germain mène désormais 2-0. On avait parlé des absences de Neymar, des absences de Messi. Eh bien, c'est Kylian Mbappé qui permet aux Parisiens de réaliser le break à la 59e minute, la seule fois quasiment de la soirée où il a pu partir seul dans le dos de la défense morbihanaise. Il a pris tout le monde de vitesse, comme à son habitude. Il a trompé l'infortuné Clément Pétrel, pourtant auteur de réalisateur de plusieurs exploits. 4 arrêts déterminants, décisifs depuis l'entame de cette rencontre, mais ça ne suffit pas. Le PSG qui mène logiquement 2-0, c'est Kimpembe qui avait ouvert le score à la 29e minute et donc le deuxième but parisien signé Kylian Mbappé à la 59e.
Merci Loïc Folio en direct de Vannes PSG pour Europe 1. 22h30 pile, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de retrouver la Libre Antenne et Olivier Delacroix.